Morning Business, spéciale élection américaine.
Notre matinale spéciale élection américaine à l'occasion de ce Super Tuesday. Un tiers des électeurs votent aujourd'hui pour les primaires. Ça va sans doute graver le duel Trump-Biden. On est ce matin avec François Rimeux, stratégie senior à la Française AM, Benaoud Abdedaïm et Nicolas Poincaré, éditorialiste bien connu évidemment chez nous. Et puis Antoine Delard, vous êtes depuis Washington notre correspondant. Je le disais, il n'y a pas beaucoup de suspense.
Non, pas beaucoup de suspense dans ce Super Tuesday. On connaît déjà l'issue. Côté républicain, c'est Donald Trump qui va rafler la mise. Il va s'imposer, selon toute logique, dans les 15 États qui tiennent leur primaire aujourd'hui, ce qui va lui permettre de remporter environ 700, un peu plus de 700 délégués, de quoi lui donner l'occasion de quasiment plier le match face à Nikki Haley. Mathématiquement, il devrait avoir le nombre de délégués suffisant pour être officiellement le candidat côté républicain d'ici une semaine ou 15 jours maximum. C'est ce que dit son équipe de campagne. Et puis côté démocrate, c'est Joe Biden qui va s'imposer. Il n'a aucun candidat sérieux face à lui. Donc pas beaucoup de suspense, pas beaucoup de surprises à attendre aujourd'hui. Mais c'est quand même une journée importante parce que d'une certaine façon, ce Super Tuesday lance le duel présidentiel, ce match retour entre Joe Biden et Donald Trump qui est en train de se mettre en place aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce que va faire Nikki Haley à l'issue de ce Super Tuesday? Parce qu'elle a remporté qu'une primaire à Washington DC. Est-ce qu'elle peut continuer comme ça jusqu'au bout, quitte à être peut-être un jour un plan B?
Ça sent la fin de partie quand même pour Nikki Haley. Pour le moment, elle ne dit pas ce qu'elle va faire après le Super Tuesday. Elle reste assez floue sur ses ambitions. Elle dit qu'elle peut éventuellement rester dans la course si elle est encore importante. Mais vraiment, la dynamique est très mauvaise pour elle. Elle a, à part Washington DC, elle a subi de lourdes défaites face à Donald Trump qui est vraiment comme un rouleau compresseur dans cette primaire. Et l'autre problème pour Nikki Haley, c'est qu'elle a bientôt plus d'argent parce que ses principaux donateurs l'ont lâché et ils ne croient plus en ses possibilités, en ses chances de victoire. Ça veut dire que de toute façon, faute d'argent, elle va devoir bientôt jeter l'éponge.
Alors, justement, un petit mot sur les levées de fonds. Là, Joe Biden a une longueur d'avance.
Oui, 56 millions de dollars pour Joe Biden en ce début d'année. C'est quasiment le double de Donald Trump qui a 30 milliards en caisse. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il dépense plus d'argent qu'il n'enlève, tout simplement parce qu'il a des frais de justice qui sont absolument colossaux. Donald Trump qui est visé par 4 enquêtes, par 4 plaintes, 4 affaires, et qui sera bientôt jugé au pénal. Et il a des frais d'avocat qui sont énormes, 55 millions l'an dernier, et c'est en grande partie ses fonds de campagne qui règlent la note. Donc aujourd'hui, on a appris que l'équipe de Donald Trump est en train de resserrer tous les boulons pour faire des économies. Par exemple, il a été décidé de ne plus faire de meetings géants parce que ça coûte trop cher. C'était pourtant la signature de Donald Trump. Et pour vous dire jusqu'à quel point on fait des économies, il a été demandé aux collaborateurs de la campagne de commander désormais les VTC les moins chers, les Uber X, alors que jusqu'ici, ils avaient le droit aux grosses voitures, aux SUV, les Uber Premium, mais qui coûtent deux fois plus cher. Donc ça, c'est désormais terminé.
Il n'y a pas de petites économies. Merci beaucoup, Antoine Delard.
On laisse aller se coucher, Antoine
Delard. Ouais, allez, c'est bon.
Aux États-Unis.
En revanche, tous les trois, on voudrait vous poser la même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des plans B dans chaque camp? Tout à l'heure, on a posé la question à Amy Porter, la porte-parole démocrate des démocrates abroad. Elle nous disait il n'y a pas de problème de santé pour Joe Biden. En fait, c'est parce qu'il est bègue qu'il cherche parfois ses mots et qu'il remplace un mot par un autre.
Qui remplace Ukraine par Gaza.
Oui, c'est ce qu'elle nous a dit.
C'est ce qu'elle a dit, oui.
C'est ce qu'elle nous a dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des plans B?
Il y a des plans B, il y a forcément des plans B. Encore une fois, cette scène entre Joe Biden et Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, où il confond le largage de vivres sur le Gaza et l'Ukraine, montre qu'il y a, quoi qu'ils en disent, un problème manifeste. Non pas, nul ne peut dire ici si c'est un problème médical ou pas, mais c'est perçu comme tel et ça risque, avec la fatigue de la campagne, de s'accentuer. Et forcément, donc, il y a des candidatures.
Mais c'est qui
strictement personne ne peut se dévoiler maintenant, parce que se dévoiler maintenant, ça voudrait dire couler la maison.
Mais il y aurait un nouveau processus.
Ce qui risque d'y avoir, et ça c'est même certain, ce sont des candidatures alternatives aux républicains et aux démocrates. Il y a un mouvement qui s'appelle No Label, sans étiquette, aux États-Unis, qui est richement doté, qui a beaucoup de moyens, qui est très bien structuré, qui réfléchit à une candidature avec Nikki Haley comme candidate à la présidence et un démocrate comme vice-président.
Voilà.
Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse Robert Kennedy, la dynastie Kennedy, qui pourrait gâcher la fête des démocrates. Donc ça ferait potentiellement 4 candidats dans une configuration historique, parce que sans précédent.
Nicolas Poincaré, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui atteint Trump, hein, peu importe ce qu'il dit, ça n'a pas d'impact sur ses électeurs. Est-ce que les affaires, elles ont potentiellement un impact?
Bah oui, parce que c'est un véritable parcours du combattant qui l'attend. Je ne veux pas vous faire la liste complète des procès à venir, ce serait trop long.
Mais,
oui, il y en a 4 à venir. Alors, il y a déjà eu 2 condamnations quand même importantes, le procès pour fraude financière et le procès pour viol, hein, au civil contre Jean Carroll, cette journaliste. Il a quand même été condamné 2 fois par des jurys populaires pour viol, en pleine campagne pour les primaires, et ça n'a eu visiblement que très très peu d'impact. Alors maintenant, il y a un procès le 25 mars, dans 3 semaines à peine, pour l'affaire Stormy Daniels, donc cette actrice porno à laquelle il aurait donné de l'argent pour qu'elle ne témoigne pas. C'est la première fois qu'un ancien président va se retrouver au pénal. Ensuite, il y a l'affaire de la Géorgie, c'est quand même l'affaire d'un coup de fil qui a été enregistré, où il demande au secrétaire d'État de Géorgie de lui trouver 12 000 bulletins de vote parce qu'il en a besoin. Donc on a quand même une preuve qu'il est intervenu dans le scrutin. Il va y avoir un procès pour ça. Il y a le plus important qui était le procès sur l'attaque du Capitole, hein, où il est mis en examen pour complot contre l'Amérique. Alors là, la Cour suprême vient de rendre une décision qui est très favorable pour lui, parce que la Cour suprême a accepté d'examiner la question de son immunité, de savoir si oui ou non on peut le juger puisqu'il était en exercice au moment des faits, ce qui fait que ça repousse tout. La Cour suprême va l'examiner en avril, rendre sa décision en juin, et ce procès qui était le plus grave, celui qui pouvait le plus nuire à sa candidature, eh bien il risque de ne pas pouvoir se dérouler avant les élections. Mais enfin, quand on fait la liste et elle
donc
est pas complète,
ça pourrait être ni Trump ni Biden. Donc
il y a une évolution majeure, c'est que dans les sondages, dans 7 États disputés, 53% des personnes sondées républicains disent que s'il était condamné au pénal, il changerait de de bulletin de vote.
François Rimeux, est-ce que vous croyez, vous, à ce scénario écrit d'avance, et est-ce que effectivement on peut aller jusqu'au bout comme ça avec Trump Biden?
Je crois qu'on peut, y aller, oui. Ouais. Ça semble être quand même aujourd'hui le scénario le plus probable. Si on n'a pas de soucis de santé d'un côté, du côté Biden, bon, on ira sûrement avec Biden, et Trump paraît complètement incontournable du côté républicain. Donc oui, c'est le scénario a priori auquel on va avoir droit. Il fait plaisir à pas grand monde en Amérique, et comme une grande partie des gens qui sont contre, hein, qui ont envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre, mais ils vont se retrouver devant ce fait accompli-là, et il faudra faire avec. Donc on y va tout droit, a priori. Hein.
Sur le plan économique, on a parlé ce matin où est l'économie américaine aujourd'hui. On voit que la croissance, ça fait plusieurs années que ça se passe bien. Le bilan économique de Biden est plutôt positif. Il a du mal à en tirer les bénéfices quand même.
Oui, il y a un problème de perception de l'inflation aux États-Unis. Les chiffres inflationnistes officiels montrent que l'inflation a beaucoup diminué aux États-Unis, etc., que les salaires réels ont augmenté, que la consommation se porte bien, etc. Donc, tous les chiffres officiels économiques sont positifs.
Sauf les taux qui grèvent notamment la capacité américaine à acheter des maisons.
Sur la partie immobilière, oui, mais même le marché immobilier sur lequel on pressentait des problèmes gigantesques, des faillites en cascade, etc. Même de ce côté-là, ça tient. Et on se rend compte que les prix du marché immobilier dans l'ancien, ils ont rebondi depuis le début de l'année de 5-6%. Il n'y a pas de drame absolu, on n'est pas du tout en 2008. Donc les chiffres officiels montrent que tout va bien. En revanche, le ressenti de la population montre que l'inflation, elle est ressentie de manière beaucoup plus dure. Il y a quelques secteurs de l'économie comme ça où on met un peu en cause les calculs de l'inflation. Par exemple, sur la santé, tous les calculs d'assurance santé montrent que dans l'inflation, dans les chiffres officiels, que ça a très peu augmenté. Or, quand on demande aux Américains, ça a augmenté de 15-20%. Donc c'est un problème de calcul aussi derrière. Donc il y a un problème ressenti, et ça joue beaucoup sur la confiance des Américains, et donc sur ce ressenti économique-là et cette disparité entre les deux.
Et d'ailleurs, Ben Aouda, on le voit hein, dans les argumentaires de Donald Trump, son envie de reprendre en main la politique monétaire et de peser sur l'élection du président de la Réserve fédérale en 2026. Hein.
Oui, tout à fait. En estimant que l'actuel responsable, que lui-même a nommé d'ailleurs,
Jean-Paul,
pour rappel, a failli sur toute la ligne, parce qu'effectivement il a très bien senti, son équipe de campagne plutôt, a très bien ressenti le fait que le choc inflationniste est imputé à la présidence Biden. Et la campagne Biden, encore une fois, fait un calcul, c'est que d'ici cet été, la perception de ce choc inflationniste aura été extrêmement réduite au sein de la population américaine, et qu'à ce moment-là, on pourra communiquer sur 3 faits majeurs, c'est-à-dire l'augmentation augmentation majeure des actifs financiers dans les portefeuilles des Américains.
Avec les records hein, à Wall Street. Hein.
Exactement. Donc, des fonds de pension. L'augmentation des salaires, notamment les salaires les plus bas. Et puis, un dernier point, les records historiques dans un très grand nombre d'États sur le taux de chômage. Donc, combiner ces trois facteurs-là, en termes de communication, et d'autant que ça a été très bien expliqué tout à l'heure, ils disposent de moyens extraordinaires pour déclencher une campagne de communication massive.
Oui, il a de l'avance.
Le moment venu, ils pourront communiquer sur ces trois points-là en disant le choc inflationniste cet été est derrière nous.
Et il n'a pas non plus l'intention de parler d'immigration, un sujet qui laisse Nicolas Poincaré à Donald Trump.
Oui, alors ça c'est vraiment effectivement là-dessus que Donald Trump fait toute sa campagne. Les Américains voient tous les jours à la télé, dans tous les JT, on voit ces images des Sud-Américains qui passent la frontière avec le Mexique et ça va être un très très gros débat. Maintenant, quand tout à l'heure on parlait des plans B, effectivement, on peut pas le dire à ce stade, ce serait complètement absurde dans un camp comme dans l'autre de dire le jour du Super Tuesday, si Donald Trump était en prison, on a quelqu'un dans la manche, et si Joe Biden devait avoir un problème de santé ou devait continuer à faire autant de gaffes, on a aussi un plan B. Mais en réalité, on les connaît, hein, ce sont quand même deux femmes qui seraient
donc c'est Nikki Haley et Kamala Harris.
Oui. Alors le problème, l'une parce qu'elle est vice-présidente, l'autre parce que c'est la dernière en course dans la primaire, donc il y aurait une logique s'il devait vraiment arriver un pépin aux deux champions, que ce soit les championnes qui les remplacent. Le problème, c'est que l'une et l'autre font une très mauvaise campagne. Hein. Nikki Haley, elle peut rester dans la course en se disant il faut que je reste jusqu'au bout, on ne sait jamais, mais elle va accumuler les échecs aujourd'hui et les jours suivants, et puis Kamala Harris, on ne l'entend pas non plus. Ouais.
François Rimeux, la victoire républicaine ou démocrate, est-ce que ça changerait quelque chose à la politique économique américaine? On l'a constaté depuis ce matin au fond, notamment en termes de protectionnisme, de commerce international, ils étaient à peu près sur la même ligne. Est-ce que... Ok. Ouais,
quand même quelques différences, Trump sera plus dur.
Oui, enfin, il est plus dur dans le verbe, mais dans la... On voit bien, la politique Biden à l'égard de la Chine a été aussi restrictive.
Alors Biden n'a absolument rien changé à ce que Trump avait mis en place. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Et il y a un consensus bipartisan sur la question, il faut lutter contre la Chine, etc. Il n'y a aucun problème. En revanche, Trump sera plus dur de manière générale sur sa politique économique. Ouais. Il sera plus dur vis-à-vis de l'Europe. On l'entend sur l'OTAN, sur les frais, sur l'Ukraine, etc. Donc ça, ce sera évidemment différent. La politique extérieure sera sans doute différente. L'Ukraine est un gros morceau, hein. Bon, pour ce qui nous concerne en Europe. Si Trump est élu, ça va y avoir quand même deux, trois remous à gérer là-dessus. Il n'y a pas que ça qui sera différent. L'immigration, vous en avez parlé, sera une partie un peu différente. Et puis tout ce qui tourne autour de la dépense fiscale, on sait que les deux ne sont pas vraiment des garants de sérieux budgétaires, mais les deux le gère très différemment. Là où Biden, lui, a mis en place l'IRA, le plan de chips, etc. Et on aura sûrement le droit à un plan numéro 2 sur les puces si Biden est...
Et il annonce des hausses d'impôts hein, pour les particuliers, pour les entreprises. Hein.
Sans doute, sur la partie la plus aisée. Il ne remettra pas en cause tout ce qui a été fait par Trump et qui arrive à échéance en 2025. Mais une partie sera sans doute remise en cause pour les ménages les plus aisés. Et si c'est Trump, bah, ce sera l'inverse. On va remettre encore des baisses d'impôts. Mais des deux côtés, on aura une augmentation, enfin, en tout cas, encore des déficits budgétaires importants, mais ça se fera différemment des deux côtés. Donc avec un impact qui sera pas le même.
Plus personne ne parle des dépenses publiques, si
il y a de part et d'autre, dans les deux campagnes, on est parfaitement conscient d'une sous-estimation chronique, gravissime même, du coût de la loi IRA, la loi sur la transition énergétique. Donc les démocrates comme les républicains vont s'atteler à fermer les robinets d'une manière ou d'une autre, parce que sinon c'est la dette publique qui va exploser dans les années à venir. Ça, c'est ils en sont conscients les deux. Et puis il y aura certainement une réorientation de la loi de transition énergétique, censée être une transition verte.
Même avec Biden, oui.
Oui, dans les deux sens. Et surtout, si c'est Donald Trump qui l'emporte, vers un financement plus favorable du pétrole et du gaz, au travers de cette loi IRA qui était censée être justement celle de la transition verte.
Ah oui, il la réorienterait. Drill, drill, drill.
Oui, exactement.
L'IRA, c'était censé être 370 milliards au départ sur 10 ans. C'est sans doute un peu plus d'un trillion aujourd'hui. Ouais. Ce sera sans doute même peut-être plus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit facile de les freiner dans leur velléité de dépenses budgétaires. Ouais. On est, ça a commencé avant le Covid, hein. Si on reprend les chiffres macro, en 2017-2018, on était déjà passé dans un schéma qui était étonnant, celui du plein emploi, d'une croissance économique qui va bien et de laxisme budgétaire très important. Bon. Ça fait maintenant déjà 7-8 ans qu'on y est, c'est difficile de lutter contre ça.
Pour l'instant, ils arrivent toujours à se financer, on verra dans les années qui viennent, notamment si la politique monétaire n'est plus indépendante, ça peut être compliqué pour les investisseurs. Merci à tous les trois, François Rimeux, Benaoud Abdedaïm et Nicolas Poincaré.